autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation. Pour commencer cette année que je vous souhaite aussi inspirante que possible, d'une drôle de manière, en changeant radicalement de perspective, en nous intéressant à un organe négligé, mal aimé et peu ragoûtant. Notre intestin, notre ventre, ce deuxième cerveau, ce deuxième génome que les chercheurs commencent à explorer, abrite des milliards de bactéries, ce qu'on appelle le microbiote. Un univers, un écosystème dont nous sommes faits. Serions-nous plus bactériens qu'humains ? Et qu'est-ce que ça change pour nous et pour notre santé, puisque l'intestin est aussi la clé de voûte de notre système immunitaire ? Autant de questions soulevées dans une exposition microbiote à la Cité des Sciences à Paris, inspirée du best-seller Le charme discret de l'intestin, charme que nous vous proposons de découvrir sans gêne et sans tabou, mais non sans humour, en compagnie de nos invités, la chercheuse de l'INRA Muriel Thomas et Dorothée Vatinel, commissaire de cette exposition. Autour de la question « Pourquoi tout ou presque se joue dans l'intestin ?» Bienvenue. Bonjour Muriel Thomas.
Bonjour.
Bonjour Dorothée Vatinel.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être en direct avec nous pour partager, j'ai envie de dire, les dernières nouvelles de l'intestin, sujet a priori peu ragoûtant, auquel vous consacrez donc une exposition, Dorothée Vatinel, à la Cité des Sciences à Paris, Le microbiote, inspiré du livre de Julia Anders, Le charme discret de l'intestin, qui a été un véritable best-seller, comme quoi l'intestin peut être un sujet porteur, qui peut même faire l'objet d'une exposition tout public en plus. Fallait oser tout de même, vous n'avez peur de rien, Dorothée Vatinel ?
Oh bah, je ne sais pas si on a peur de rien, la Cité des Sciences et l'industrie, mais un sujet comme ça, c'est un sujet en or pour faire une exposition, parce qu'on aime bien parler de la science fraîche, et le microbiote est de la vraie science fraîche.
La vraie science fraîche, dans laquelle il faut aussi parler de gaz, de flatulence, de digestion, de sel, de caca, quoi, en gros.
Bah hein. Oui, on parle de ce qui se passe de la bouche à l'anus, donc oui.
Changement de perspective, changement de regard aussi sur notre corps qui va nous entraîner assez loin, on le verra. Le microbiote, le charme discret de l'intestin, c'est aussi, alors peut-être pas une révolution, mais tout de même un grand changement scientifique, une révolution médicale, humaine, qui change complètement notre rapport au corps et à la santé. En tout cas, c'est un changement de regard. Muriel Thomas, vous êtes chercheuse à l'INRA, vous étudiez les effets de toutes ces bactéries sur notre santé. C'est un domaine de recherche assez récent, vous n'aimez pas tellement ce mot de révolutionnaire, mais on va quand même de découverte en découverte.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, on va de découverte en découverte. En effet, on savait depuis très 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 longtemps que des bactéries habitent notre intestin. En revanche, ce qu'on a découvert de façon plus récente, c'est qui sont ces bactéries. Puisque jusqu'à, on va dire, au début des années 2000, on savait qu'elles étaient là, mais on ne savait pas qui elles étaient, tout simplement parce que beaucoup d'entre elles sont très sensibles à l'oxygène, elles ne sont donc pas très facilement accessibles, ni cultivables. Et si elles sont si bien au fin fond de votre intestin, c'est parce qu'elles sont très sensibles à l'oxygène et donc elles s'y cachent.
On n'avait pas les moyens de les étudier,
voilà.
En fait.
Et donc il a fallu attendre la révolution de l'étude des génomes et du séquençage à haut débit pour connaître leur génome et donc pour savoir mieux qui elles sont et connaître leur identité.
On peut parler d'un deuxième génome, d'un autre génome, ce génome intestinal qui est en nous et qui fait ce que nous sommes ?
Oui, je comprends. En effet, nos cellules humaines portent leur génome. Un seul génome pour toutes nos cellules humaines. Donc on a le même génome dans une cellule de foie ou dans une cellule de cerveau. D'accord. En revanche, tous ces organismes qui sont notamment dans notre intestin, donc majoritairement des bactéries, elles, chacune d'entre elles, chacune de ces bactéries porte leur propre génome. Donc si on estime qu'il y a 400 espèces de bactéries différentes...
À l'intérieur de notre ventre, 400 espèces différentes.
Oui, et bien du coup, vous pouvez estimer que vous avez 400 génomes différents qui sont portés par ces bactéries qui sont présentes dans votre intestin. Donc cette potentialité génique est énorme.
Et du coup, c'est vraiment un changement de regard, de perspective sur nous-mêmes, sur notre corps, sur nos organes, sur ce que nous sommes.
Oui, parce qu'en fait, il faut davantage se considérer comme une interface entre nos propres cellules et tous ces micro-organismes. Nous sommes un écosystème, c'est-à-dire différentes populations de cellules faites soit par nos propres cellules, soit par les bactéries qui sont sur notre peau, dans notre bouche, par exemple, dans notre cavité nasale, mais aussi et majoritairement dans l'intestin.
Alors, précisément, parmi les premiers qui s'y sont intéressés à toutes ces bactéries qui sont dans notre intestin, notre microbiote, il y a eu de véritables pionniers en France, Alinra notamment, le microbiologiste Dushko Erlich, directeur de recherche à l'unité de recherche de génétique microbienne, est un des tout premiers à avoir pressenti l'importance de notre microbiote intestinal. Il faisait ici même sur notre antenne, c'est en 2014, avec l'accent enthousiaste qui le caractérise, la genèse de cette révolution génétique du microbiote intestinal. On l'écoute.
Vu l'importance et la complexité de ces microbes qui vivent avec nous dans notre ventre, imaginez-vous 10 fois plus de cellules que le reste de notre corps. Dans notre ventre, 100 fois plus de gènes bactériens qui opèrent dans notre corps que dans le reste de notre génome. Et on ignorait tout de cet organe négligé. Négligé parce que le médecin n'avait pas d'outils, n'avait pas de microscope, n'avait pas de scanner pour l'examiner, pour le palper, pour décider. Mais quel est son état dans mon patient? Eh bien, nous avons décidé, en 2005, autour d'une table ronde qui réunissait des experts des 5 continents, des médecins, des académiques, des industriels, mais aussi les agences de financement de recherche, importants, de s'attaquer à la description de cet organe négligé. Et nous l'avons fait en 2010, un papier que nous avons publié dans le journal le plus prestigieux, Nature, la couverture, notre deuxième génome. Eh bien, c'était le génome, 3,3 millions de gènes, de bactéries qui vivent dans notre ventre.
C'est considérable, c'est assez inimaginable. Pourquoi est-ce que l'intestin, quand même longtemps organe négligé, mal aimé, est un organe à ce point-là hors pair, qui héberge à ce point-là autant de bactéries? Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le rôle de l'intestin, Muriel Thomas?
Alors, le rôle premier de l'intestin, c'est de participer à la digestion et de permettre cette digestion. Donc, quand on mange des aliments qui sont gros et ces aliments doivent être digérés en nutriments pour que les nutriments qui vont nous nourrir passent dans le sang. D'accord ? Donc le premier rôle de l'intestin, c'est de nous nourrir. Mais c'est également un organe qui est en contact avec notre environnement, avec l'extérieur, parce que les aliments, ils viennent de l'extérieur pour aller de l'intérieur. Donc le deuxième rôle super important de l'intestin, c'est un rôle de protection, puisqu'en fait, c'est ce qui nous permet de passer de l'extérieur d'un aliment vers l'intérieur, dans notre milieu intérieur, qui est notamment le sang. Donc, les deux rôles majoritaires de l'intestin, premier, digestion, deuxième, protection vis-à-vis de l'extérieur et interface entre l'extérieur et l'intérieur.
Et c'est ce que vous montrez, Dorothée Vatinel, dans cette exposition sur notre microbiote, cette interface, enfin cet intestin, le charme discret de l'intestin auquel on ne pense pas tout de suite, hein, parce que cet organe, a priori, n'est pas très ragoûtant.
Oui, c'est ce qu'on essaye de montrer en effet dans notre exposition. Ce que disait tout à l'heure Muriel au sujet de ces bactéries qui sont donc ce qu'on appelle anaérobies, donc qui n'aiment pas l'oxygène. Quand on a commencé à travailler sur cette exposition, n'étant pas spécialiste du microbiote tout à fait à l'époque, on a été très déçus avec mon équipe parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir montrer dans l'exposition des super bactéries intestinales jusqu'au moment où on nous a dit mais non, on ne peut pas les voir. On ne peut vous montrer que leur séquence leur séquençage. Et on était très déçus parce que quand on a vu à quoi ça ressemblait, une succession de lettres, on s'est dit mais ça on comprend pas, les visiteurs vont pas comprendre, c'est pas très... Voilà. Donc, comment faire pour montrer l'invisible? C'était vraiment le défi de cette exposition. À la fois montrer l'invisible et montrer en effet le rôle de cet invisible et cette interface entre l'intérieur et l'extérieur, comme Muriel vient de le dire.
Donc, montrer l'invisible et montrer l'invisible, alors qui est parfois audible, hein, les gargouillis dans notre ventre, les pets, qui est parfois visible, nos selles, notre caca, parce qu'en même temps, c'est ça dont il s'agit, d'aliments qu'on ingère. Et donc, en même temps, il faut montrer l'invisible et quand il est visible, il est
C'est ça. La seule façon façon, bah voilà, la seule façon de voir notre microbiote intestinal, en fait, c'est de regarder les crottes, nos crottes. Et donc, forcément, là aussi, comment parler de ça dans une exposition sans gêner personne? Et en même temps, il faut absolument parler parce que c'est absolument génial tout ce qu'on peut apprendre en observant, en analysant, en étudiant nos caca. D'ailleurs, dans l'exposition, on a évidemment un coin qui s'appelle le caca-binet de curiosité où les visiteurs d'abord rigolent beaucoup, mais aussi sont très surpris de savoir que finalement, ce qui est au fond de leur cuvette vaut de l'or.
Ça vaut de l'or.
Bah, ça vaut de l'or déjà parce qu'on apprend beaucoup de choses en les étudiant. Et puis aussi, il y a des soins, peut-être, il y a des idées de soins thérapeutiques. Il y a déjà la transplantation fécale qui existe.
La transplantation fécale, on va y venir, mais c'est une piste, effectivement, thérapeutique.
C'est plus qu'une piste, hein, puisqu'elle est utilisée dans un cas de maladie bien précise.
Il s'agit là de transplanter les matières fécales d'un individu dans un autre qui souffre.
Voilà, exactement. C'est le patient souffre d'une bactérie qui s'appelle Clostridium difficile, qu'on a tous en soi, qui normalement vivote en nous de façon assez discrète, et puis parfois prend un peu trop ses aises dans notre intestin et nous rend très 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 malade. Ces transplantations fécales est une très très bonne thérapie, elle est déjà utilisée. Hein. On a travaillé pour l'exposition avec le professeur Harry Sokol, qui travaille à l'hôpital Saint-Antoine. Il explique comment ça fonctionne. Alors, on peut parler de transplantation fécale, ce qui fait vraiment ragoûtant. Mais moi, ce que j'aime bien dire à mes visiteurs, c'est de dire que c'est aussi, on peut parler de greffe d'organes. Puisque finalement, ce microbiote, certains disent que c'est un organe.
Donc toutes ces bactéries ensemble, c'est comme un organe, oui.
Oui, oui, certains, voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait avant un autre flore intestinale, certains considèrent que c'est un organe parce qu'il répond à la définition d'un organe, c'est-à-dire qu'il a une origine, il se développe avec nous, il est constitué d'amas de cellules et il communique en permanence avec les autres organes de notre corps. Donc finalement, si je vous dis, vous souffrez terriblement de cette maladie due à Clostridium difficile, je peux vous faire une greffe d'organe, vous dites oui. Si je vous dis, je vous donne les matières fécales d'un autre, vous serez peut-être moins emballé et pourtant c'est la même chose.
C'est un organe, vous voyez ça aussi comme ça, Muriel Thomas, vous étudiez vraiment les effets sur la santé de ce microbiote intestinal.
Oui, ce qu'on étudie au labo, enfin ce que moi j'étudie au labo plus particulièrement, ça va être les fonctions de ces bactéries sur, par exemple, nos propres cellules qui tapissent l'intestin, donc qui s'appellent les cellules épithéliales de l'intestin. Donc je vais étudier comment des bactéries qui sont présentes dans notre intestin vont modifier, par exemple, les capacités de nos propres cellules intestinales à produire du mucus, par exemple. Donc le mucus, c'est un petit coussin protecteur qui tapisse nos cellules intestinales, qui fait que les bactéries sont un petit peu éloignées de nos propres cellules, donc il n'y a pas forcément un contact direct entre ce microbiote et ces cellules, mais ce qu'on sait, c'est que les bactéries vont favoriser la production de mucus par nos propres cellules. Donc voilà, c'est ce genre de...
C'est elles-mêmes qui font aussi un univers, leur propre environnement, et qui du coup nous est bénéfique ou pas.
Voilà, exactement.
Mais elles sont bien plus bénéfiques qu'on l'imagine.
Alors, tout à fait. En fait, il y a dans notre microbiote intestinal, il y a assez peu de bactéries qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui vont déclencher une maladie. Il y en a, mais elles ne sont pas majoritaires, en tout cas chez un homme adulte, sain, non malade. Par exemple, Clostridium difficile, dont parlait Dorothée tout à l'heure, clairement, chez l'homme adulte non malade, cette bactérie est en sous-dominance, et tant qu'elle est en sous-dominance, peut-être même qu'elle peut nous envoyer des signaux qui pourraient nous être bénéfique. En revanche, si un jour elle devient dominante, là, en revanche, elle peut créer des infections. Donc, en fait, tout est une question d'équilibre entre ces micro-organismes et nos propres cellules. Et c'est exactement ce que j'étudie dans mon laboratoire.
Et comment maintenir cet équilibre, précisément. On poursuit l'exploration de notre microbiote intestinal avec une nouvelle question pour vous, soulevée par Philippe Hénarejo, ce rédacteur en chef de Ciel et Espace.
Donc le microbiote, ce sont tous ces micro-organismes que nous avons dans les intestins, et on dit que ça a une importance considérable. Mais quelle est la masse de ces bestioles que nous avons dans le ventre? Est-ce que c'est plusieurs kilos, des centaines de grammes? Est-ce qu'on le sait précisément?
qui peut nous donner la réponse. Ça ne se mesure pas en kilos quand même, notre microbiote, et notre flore intestinale, Dorothée Vatinelle.
Ça peut. Oui. Dans l'exposition, on montre que nous, on explique que ça peut aller de 200 grammes à 1,2 kg. C'est très difficile, évidemment, de mesurer un microbiote intestinal. C'est même impossible. Donc, ce ne sont que des estimations à partir de calculs faits sur... déjà, en fonction du type d'alimentation que vous prenez, hein, si vous avez un microbiote... Bien nourri, bien de qualité, que vous chérissez.
Bien varié.
Bien varié. Un microbiote en bonne santé, c'est un microbiote varié. Donc, ça veut dire des bactéries, si possible, les 400 espèces dont parlait Muriel tout à l'heure, mais aussi en quantité. Chaque espèce est en quantité. Donc, si voilà, votre microbiote est en bonne santé, que vous mangez plein de fibres alimentaires, ça peut aller jusqu'à 1,2 kg. Et peut-être puisque ce journaliste est spécialiste des galaxies et de l'espace, laissez-moi vous dire que dans chacun d'entre nous, il y a 1000 fois plus de bactéries que d'étoiles dans notre galaxie. Ça donne une idée.
1000 fois plus de bactéries que d'étoiles dans notre galaxie.
Voilà. Et je peux vous dire...
Dans notre corps entier. Hein, là.
Oui. Enfin, dans le corps entier, oui. De toute façon, la plupart de nos bactéries sont dans notre intestin. 99% de nos bactéries sont dans notre intestin. Donc, voilà. Et puis sinon, aussi, toujours pour donner des chiffres qui pourraient plaire à Philippe, c'est lui dire que donc, il y a plus de bactéries dans 1 gramme d'excréments que d'êtres humains sur Terre.
Plus de bactéries dans 1 gramme d'excréments que d'êtres humains sur Terre. Voilà. Ça fait réfléchir.
Donc, quand tout à l'heure je vous disais que ce qu'il y a au fond de notre cuvette vaut de l'or, je suis pas loin.
Donc ça se mesure en kilos, ce micro, enfin, ça peut se mesurer en kilos. En même temps, Muriel Thomas, Dorothée disait bien que c'était très compliqué de mesurer véritablement ce que nous avons à l'intérieur de notre ventre. C'est quoi ? C'est toujours des estimations ?
Oui, c'est des estimations. Après, une façon assez simple de le mesurer, c'est de peser tout simplement les selles d'un individu, en sachant que dans les selles, il n'y a pas que des micro-organismes. Il va y avoir des résidus de la digestion, il va y avoir aussi un petit peu d'eau, etc. Mais voilà, en moyenne, quotidiennement, un homme de 70 kilos peut avoir entre 400 et 1 kilo de sel. Donc, il ne faut pas oublier l'importance de tout ce qu'on ingère en termes de masse. Et donc, évidemment, tout ce qui va être libéré ou excrété sous forme de sel en termes de masse.
Combien est-ce qu'on ingère de bactéries par jour ? On a une idée, mais ça n'arrête pas de se renouveler, ce microbiote.
Oui, vous avez raison. Alors ça, c'est, j'aime bien cette vision de la vie qui est une succession de bio-inoculations quotidiennes.
De bio-inoculations, voilà, inoculation de la vie. Hein.
Voilà, on s'inocule par de la vie. Donc on peut voir aussi l'alimentation comme de l'inoculation. Le transfert fécal, évidemment, c'est un exemple princeps de la bio-inoculation. On peut voir la naissance aussi comme le début d'une bio-inoculation.
Quand l'enfant sort du ventre, il est en contact avec plein de bactéries.
Les premiers contacts qu'il a, peut-être, ce sont les mains du staff médical ou des parents, mais c'est aussi... évidemment, les bactéries de l'environnement ou les bactéries fécales de la mère pendant la naissance, par exemple.
Donc, finalement, la vie, c'est toujours une rencontre avec d'autres.
Voilà, la vie, c'est vraiment une succession d'inoculations. Donc, vous me demandiez combien de bactéries on peut ingérer par jour. On peut estimer à 10 puissance 10, 10 puissance 11 bactéries par jour. Alors, c'est vraiment à la louche, moyenne.
Oui, mais de toute façon, pour un nombre pareil.
C'est plusieurs centaines de milliards de bactéries par jour qu'on ingère en même temps que nos aliments. Heureusement, on n'a pas des aliments stériles.
Heureusement, on n'a pas des aliments stériles. Oui, bien sûr. En fait, on en a énormément besoin de toutes ces bactéries.
Bien sûr, oui. C'est un peu peut-être ce qu'on a oublié un petit peu pendant assez longtemps. C'est le côté essentiel de ces bactéries. Alors, par exemple, je vais vous donner des exemples très faciles à comprendre. Certaines bactéries de notre intestin fabrique des vitamines qu'on ne trouve pas dans nos aliments. Donc si on n'avait pas ces bactéries, on ne pourrait pas bénéficier de la production de ces vitamines. Par exemple, la vitamine la plus connue étant la vitamine K. Voilà. Donc, clairement, ces bactéries sont indispensables à notre santé. Elles participent elles-mêmes à la création de leur environnement. On en a parlé tout à l'heure, par exemple, pour la production de mucus. Donc, elles nous aident à digérer, elles nous aident à nous protéger contre l'environnement et contre l'extérieur, évidemment. Et Et ça, c'est vraiment un champ de recherche très très nouveau et en pleine expansion. On s'aperçoit aussi que ces bactéries sont source de signaux, c'est-à-dire qu'elles participent à l'action de signalisation, c'est-à-dire que dans
l'intestin, signal de la bonne santé ou de la mauvaise santé,
ou de la mauvaise
santé. On peut dire comme ça.
Elles nous envoient des signaux, c'est-à-dire elles envoient des signaux qui peuvent être compris par le cerveau, par les cellules intestinales, par d'autres organes extra-locales, par exemple par le foie, etc. Donc en fait, on se rend compte que l'intestin nous aide à nous digérer, est un organe de protection en même temps que ces bactéries, mais aussi est un organe de signalisation, d'envoi de signaux. C'est très bien matérialisé dans l'exposition à la Cité de la Villette par des bactéries qui envoient des lettres dans tout le corps entier, qui envoient des messages en fait. Et ces messages, ça passe par des signaux qui peuvent être des molécules qui vont se retrouver dans le sang ou qui vont se retrouver dans les nerfs ou par exemple dans le système lymphatique.
Donc il faut écouter, on a peut-être trop longtemps oublié d'écouter tout ce petit monde qui vit à l'intérieur de nous et qu'on voulait plutôt stérile. Enfin, on est presque parti dans une direction opposée ou comment vous diriez ça?
Non, je ne crois pas qu'on le voulait stérile, mais c'est... En ce moment, en 2019, il ne faut pas que je me trompe d'année, en 2019, on connaît mieux l'identité de ces bactéries, mais on connaît toujours aussi peu leurs fonctions et tout ce qu'elles sont capables de faire en nous. Donc il faut certes être conscient de toutes les avancées qui ont été faites sur ces dernières années pour bien caractériser ce microbiote, mais il faut rester conscient aussi qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir, notamment sur les molécules envoyées par ces bactéries qui vont servir de signaux, de médiateurs en fait, dans tout notre corps.
Le langage des bactéries reste encore à découvrir autour de la question « Pourquoi tout ou presque se joue dans l'intestin ?» Allez, on partage le blues intestinal, accrochez-vous des VRP sur RFI, sans gêne et sans tabou.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Soleil depuis 3h30, les oiseaux dans le ciel semblaient tourner pour lui. En quête d'un refuge, il errait sans répit. Après lui le déluge, car il avait une grosse envie. C'était un long week-end, un dessous où tout est fermé. Pas un troquet ouvert, il continuait à marcher. Pourvu que la chance vienne, se disait-il au fond de lui. Mais pas la moindre Vespasienne pour lui passer sa grosse envie. Il n'était pas à l'aise un peu après-midi. Il regrettait les fraises et la crème chantilly. Du remords il avait regretté d'avoir pris trois fois du cassoulet et bien 18 demi. Sa démarche moins naturelle semblait briller son pantalon. Mais au détour d'une ruelle, serrant les fesses, il aperçut. Oh non, l'aubaine était trop belle. Mais si un shot de co en vue. D'abord il n'osa pas courir, espérant faire de son mieux. Mais tout à coup, craignant le pire, il accéléra un petit peu. Mais au malheur, arrivant là, il s'aperçut avec détresse, fouillant ses poches de haut en bas, qu'il n'avait pas la moindre pièce. Quel gâchis!
Sans gêne, le blues intestinal des VRP sur RFI. Autour de la question « Pourquoi tout ou presque se joue dans l'intestin ?» Nous sommes en compagnie de Muriel Thomas, chercheuse à l'INRA, et de Dorothée Vatinel, commissaire de l'exposition « Microbiote » à la Cité des sciences et de l'industrie. Nous continuons de découvrir le charme discret de l'intestin dans cette exposition avec une visite guidée dans l'intestin, carrément. C'est Floriane Perrault de la Cité qui sert de guide à notre reporter, Charlie Dupiot, et aux visiteurs de cette exposition intestinale.
Alors maintenant, nous allons rétrécir, passer à l'échelle microscopique et puis rentrer dans l'intestin. On a vu que l'intestin grêle, sa structure ressemble à celle du velours parce que la paroi de l'intestin grêle est tapissée de tas de petites villosités qui sont comme des petites excroissances et donc qui sont matérialisées ici par ces sortes de gros tubes roses. Donc allez-y, passez à l'échelle microscopique et partons à la rencontre de notre microbiote intestinal. Voilà, donc bienvenue dans l'intestin. Donc nous sommes dans l'intestin, dans cette salle ronde, rose, donc comme je le disais, hérissée de ses villosités. Et c'est ici que réside notre microbiote intestinal. Alors, qu'est-ce que notre microbiote intestinal? C'est essentiellement des bactéries, mais aussi des archées, qui sont des micro-organismes qui produisent les gaz, et aussi des levures et des champignons. Donc on va partir à la découverte de ce microbiote mystérieux. Alors vous avez là-bas un jeu dans lequel on va découvrir que ce microbiote est à la fois glouton et marmite. Alors pourquoi glouton? Parce qu'en fait il se nourrit de ce que nous mangeons, hein, c'est ce qu'on a vu dans le petit film tout à l'heure. Et puis à partir de ce que nous mangeons, il en extrait des nutriments, des vitamines, des sels minéraux qu'il va ensuite répartir dans notre corps pour nourrir nos différents organes vitaux, nous faire être en bonne santé.
Bonjour madame.
Bonjour.
Et là, en fait, c'est un jeu, vous l'avez compris ou pas? Voici des céréales et des fruits pour le petit déjeuner, pour les avaler. Il faut les faire glisser, en fait, l'écran est tactile dans la bouche. Personnage à l'écran. Là, on voit les aliments qui voyagent, en fait. Et qui n'a pas encore été absorbé dans l'intestin grêle arrive dans le côlon 2 à 4 heures plus tard. De très nombreuses bactéries vivent ici.
Ok. L'intestin, c'est un organe à part entière et bah, il faut y en prendre soin en fait, donc bien le nourrir, etc. Le microbiote, entre autres, puisque là on est devant un panneau du microbiote.
Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on comprend aussi que certaines bactéries sont essentielles en fait à notre vie intestinale.
Donc des tas de petites bêtes qui permettent de bien faire fonctionner le corps, je dirais. Voilà.
À travers cette exposition, comme à travers le livre de Julia Anders, Le charme discret de l'intestin, Dorothée Vatinel, c'est vraiment un changement de regard sur toutes ces bactéries qui composent notre microbiote intestinal. Ça invite vraiment à un changement de regard.
Oui, tout à l'heure Muriel nous disait l'importance de ces bactéries, leurs trois rôles, digestion, protection et signalisation. Donc on comprend par cela que finalement on ne pourrait pas vivre sans ces bactéries. Je pense qu'elles pourraient vivre sans nous. En tout cas nous, ce qui est sûr, c'est que, je ne sais pas, Muriel, est-ce qu'elles pourraient vivre sans nous?
Muriel, Thomas.
D'accord. En tout cas nous, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourrait pas vivre sans elles. Souvent on peut avoir une représentation de bactéries. Bactéries pathogènes à éviter, à se laver les mains toujours à droite à gauche, à ne pas boire dans le verre de sa copine ou de son copain. En fait, non.
En fait, on a tout faux là.
En fait, 95% des bactéries sur Terre ne sont pas pathogènes. Donc voilà. Donc il faut se réconcilier. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. En tout cas, changer notre façon de voir. Surtout si on en avale entre 10 puissance 10 à 10 puissance 11 par jour, il vaut mieux se dire qu'elles sont plutôt
amies
qu'ennemies a priori. Et dans l'exposition, dans la dernière partie de l'exposition, où on revient dans le quotidien. La Floriane Perrault nous faisait visiter l'intestin dans l'exposition. En sortant de l'intestin, on arrive dans la vie quotidienne. Et là, justement, on a représenté une maison où on vous dévoile les bactéries chez vous, de façon amusante et décalée, en travaillant avec des dessins de Jill Anders, qu'elle nous a fait exprès pour l'exposition.
L'idée, c'est la graphiste qui est la sœur de l'auteur.
C'est l'illustratrice, et voilà, les deux filles ont vraiment travaillé ce livre ensemble, et ont travaillé avec nous pour l'exposition. Et donc l'idée de présenter cette maison, c'est voilà, dire qu'on est entouré de ces bactéries. Il faut se méfier de certains endroits, évidemment dans les hôpitaux, on peut imaginer qu'il y a plus de bactéries pathogènes. Et quand on est entouré de gens malades, évidemment, il y a un comportement adapté à avoir. Mais si un enfant met la main à sa bouche après avoir tripoté de la terre, ça n'est pas grave du tout, bien au contraire.
Voilà une des leçons qu'on peut tirer de ce livre, de cette exposition. C'est le côté bénéfique des bactéries. D'où vous, dans votre recherche, Muriel Thomas, vous découvrez que les bactéries sont bénéfiques, pas seulement dans l'intestin, mais un peu partout dans le corps. C'est ça aussi que vous étudiez?
Oui, évidemment, là on parle beaucoup d'intestin parce que c'est le tissu dans lequel les bactéries vont être les plus abondantes, notamment dans la partie terminale de l'intestin qui est le côlon. C'est là où la population des micro-organismes est la plus dense dans notre corps. Mais évidemment, et intuitivement, vous le comprenez bien, nous avons des bactéries sur la peau, dans notre nez, sur toutes les surfaces en contact avec l'extérieur. Donc, par exemple, il y a des endroits un peu plus surprenants, un peu moins intuitifs, dans la gorge, voire dans les poumons.
Il y a des bactéries, même quand on n'est pas malade.
Voilà. C'est-à-dire que parfois, on associe bactéries et poumons à maladies. Ce serait notamment le cas, par exemple, de la tuberculose. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas ce qu'on remet en cause. En revanche, il peut y avoir des bactéries qui ont un effet aussi stimulant notre système immunitaire, par exemple, à la fois sur la peau et dans le poumon. Donc, ce qu'on connaît des propriétés de protection, de signalisation ou de fabrication de molécules dans l'intestin, c'est également vrai et transposable à d'autres tissus comme la peau, le nez ou les poumons.
Vous disiez tout à l'heure, Muriel, qu'on était encore très loin de savoir exactement l'impact ou l'effet de toutes ces bactéries, mais est-ce qu'on sait un peu, est-ce qu'on a quelques pistes, est-ce qu'on sait un peu à quoi nous sert toutes ces bactéries, quel est leur rôle dans certaines maladies, dans certaines pathologies? On parle aussi de l'intestin comme un deuxième cerveau. Voilà, jusqu'où peut-on aller? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui?
Alors, ce qu'on sait, c'est que ces bactéries, donc notamment, là je vais revenir dans le côlon, dans la partie terminale de l'intestin, ces bactéries, elles vont prendre en charge les aliments qui n'ont pas été digérés avant, dans le haut de l'intestin grêle. Donc tous les résidus alimentaires qui arrivent dans le côlon, notamment les fibres, c'est-à-dire les sucres qui sont très abondants, très complexes et très abondants dans les parois des végétaux ou des fruits, eh bien, ces molécules très complexes, nos propres cellules de l'intestin ne sont pas capables de les digérer. Mais les bactéries, elles, sont armées dans leur génome pour pouvoir avoir les outils pour digérer ces molécules.
Donc ce sont des auxiliaires ou des aides,
c'est-à-dire que grâce à nos bactéries, nous sommes capables de digérer ce qu'on appelle les fibres alimentaires, c'est-à-dire des molécules extrêmement complexes, très abondantes dans les parois des végétaux et des fruits. Et ce sont les bactéries qui vont les digérer. En les digérant, elles produisent de l'énergie. 10% de notre énergie quotidienne arrive grâce à nos bactéries, est produit grâce à nos bactéries. C'est-à-dire que, si, imaginons un monde qui n'existe pas, mais où vous n'auriez pas de bactéries, eh bien vous auriez 10% de votre énergie quotidienne qui vous manquerait. C'est énorme, ça fait entre 170 et 200 kilocalories par jour.
C'est énorme, donc elles sont vraiment essentielles, fondamentales à
elles
notre existence. Hein.
Vous n'auriez pas de vitamine K produite, par exemple. Donc, dans certains laboratoires, il existe des animaux qui sont maintenus dans des conditions d'élevage tels qu'ils n'ont pas de bactéries ni en eux, ni sur eux, ni dans leur tractus digestif. Pour maintenir en vie ces animaux, il faut une alimentation particulière, notamment des supplémentations en vitamines, etc. Donc, ces bactéries sont complètement indispensables à notre digestion et à à la façon dont on va pouvoir résister et profiter de tous les aliments, en fait, de tout ce que les aliments peuvent nous apporter.
Donc c'est pour l'énergie, aussi pour notre système immunitaire, pour notre santé,
voilà,
hein,
pour
notre
protection.
Bonne santé.
Alors ça, c'est très très simple à comprendre. Vous êtes dans un environnement, l'intestin, qui est un environnement clos et défini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'étendre à volonté. Et donc cet environnement, il est très habité par des micro-organismes. Imaginez une bactérie pathogène, c'est-à-dire une bactérie qui va déclencher une infection, par exemple. Eh bien, cette bactérie, elle aura du mal à se créer une niche dans l'intestin parce que l'intestin est déjà très peuplé. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de barrière.
Voilà. Ah, donc plus on a effectivement de bactéries, plus notre microbiote est riche.
Plus
il nous protège des autres bactéries,
voilà,
des pathogènes.
De l'intrusion des pathogènes. Il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de barrière. Et ça nous aide à nous protéger contre l'intrusion par des bactéries qui pourraient nous rendre malades. Et il y a aussi ce microbiote qui est capable de provoquer la maturation de votre système immunitaire. Ce qui signifie qu'à la naissance, un bébé qui n'a été en contact avec aucune bactérie, en tout cas avec très peu, eh bien, ce bébé a un système immunitaire immature. qui n'est pas terminé, en fait, en quelque sorte, qui n'est pas fini.
Et c'est les bactéries qui vont l'aider à
Et c'est les bactéries qui le façonnent, ce système immunitaire, et qui va aider, du coup, le bébé à acquérir ses défenses immunitaires contre l'intrusion de certains pathogènes, par exemple.
Question qui va suivre, sommes-nous plus humains ou plus bactériens? Ce qui soulève plein d'interrogations quasi philosophiques, et dire que tout ça se joue dans notre intestin, dans les gargouillements et autres borborygmes de notre ventre. Perdu dans mon ventre, Karl et les hommes boîtes sur RFI.
Si nous écoutons les bruits du dehors, les automobiles, le vent qui siffle dans les ruelles, de rires bruyants, un vieux décor qui dégringole, souvent un courant froid de là-bas, nous glace les chines, tu frissonnes et tu dis, j'ai plus envie de sortir, tu poses ton oreille sur mon ventre, tu souris, au plus sonore de mes gargouilles, je suis un peu gêné de ça, tu écoutes les éruptions, je n'arrive pas à prévenir dans mon ventre. Dans mon ventre. Dans mon ventre, il y a une forêt que tu arpentes, et tous ces bruits étranges. Tu veux trouver d'où ils proviennent, de quelle fissure ils s'échappent. Tu cours partout comme une folle, derrière des bulles, des machins volants difformes. Tu n'as pas peur de blesser tes genoux à ramper sous les branches, ni du gaz qui s'échappe qui pourrait t'arracher les jambes. Tu t'approches au plus près des volcans et tu craches dedans pour qu'ils explosent en un gargouille bruyant. Parfois les racines patougent dans ta cuisine, que tu assaisonnes après coup de ta sueur, de ton urine. Tu t'amuses à tordre mes boyaux, à sauter dans les flaques acides, à défaire les nœuds qui t'agacent, à te jeter contre les murs mous de mon ventre. Et parfois tu chantes, tu chantes.
Ça fait bizarre, perdu dans mon ventre, Karl et les hommes boîtes sur RFI. Autour de la question pourquoi tout ou presque se joue dans l'intestin, en compagnie de Muriel Thomas, chercheuse à l'INRA, et de Dorothée Vatinel, commissaire de l'exposition Microbiote à la Cité des Sciences et de l'Industrie, inspirée par le best-seller de Julia Anders. Le charme discret de l'intestin, Julia Anders, auteure de sciences improbables à succès, est aujourd'hui gastro-entérologue et conseillère de cette exposition bientôt itinérante. Je propose d'écouter celle qui nous a réconciliés avec notre intestin.
C'est toujours important de parler des intestins, surtout pour les personnes qui n'ont pas lu le livre. Il est important qu'ils puissent venir ici, se rendre compte, toucher, apercevoir, et tout ce que l'on fera pour augmenter la notoriété de l'intestin sera bon. L'objectif était que les gens prennent conscience de leur corps. Et souvent, les retours sont que ces personnes changent de regard sur celui-ci. L'objectif est atteint. Ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre des histoires que l'on me rapporte. Comme la maman ultra-catholique qui, lors d'un dîner du dimanche, explique « J'ai lu le livre et j'ai enfin compris ce qu'il se passe dans mon intestin. Du coup, maintenant j'ai installé un petit tabouret dans mes toilettes. » Ou quelqu'un qui dit « Je sais ce qu'il faut que je mange pour me sentir bien. J'ai testé ceci ou cela et je me sens beaucoup mieux. » Oui, je suis contente d'avoir ce genre de retour.
Qui veut réagir au propos de Julia Anders, donc auteure à succès du charme discret de l'intestin, peut-être Dorothée Vatinel nous expliquer pourquoi est-ce que c'est bien de mettre un petit tabouret dans ses toilettes.
Alors ça, cette histoire c'est de tabouret est quand même très marrante parce que évidemment Julia Anders en parle dans son livre, évidemment on l'a repris dans l'exposition, et alors ça, c'est un succès fou pour quelque chose d'extrêmement simple.
Mais oui, mais qu'il faut partager.
Alors, allons-y. En fait, quand on est assis sur des toilettes à la française, on va dire, finalement, le bout du côlon forme une boucle parce qu'il y a un muscle qui qui fait comme un lasso et qui empêche le passage des selles. Quand on relève les jambes en posant ses pieds sur un petit tabouret, ce qui revient au même que d'avoir la position sur des toilettes dites à la turque, en fait, on est accroupi et donc ce petit muscle lasso se détend et du coup, le bout du côlon est totalement vertical et les selles tombent beaucoup plus facilement. Et donc, c'est très amusant de voir. D'abord, ça nous amusait beaucoup de faire asseoir les visiteurs sur des cabinets. C'est quand même.
Bah oui, c'est quand même pas mal dans une exposition.
C'est quand même assez drôle.
Oui. Mais surtout, comprendre qu'accroupi, c'est beaucoup mieux.
Voilà, mais surtout, c'est tellement simple. Et voilà. Et en fait, c'est ça qui nous a beaucoup plu dans le livre de Julie Enders et de Jill Enders. C'est ce que j'appelle, moi, l'espièglerie scientifique. C'est-à-dire que, on l'entend d'ailleurs sur ça, on devine dans son ton de l'interview que vous venez de diffuser, elle est maligne, elle est espiègle, son livre est vraiment tordant
et très
sérieux en même temps. Et ce qu'on a aimé dans son livre, c'est la facilité qu'elle a à expliquer des choses compliquées de façon très simple et très drôle. Et
des choses compliquées et des choses taboues en plus.
Exactement, exactement. Et donc finalement, c'est parfait pour nous parce que c'est exactement ce qu'on aime à la Cité des Sciences. C'est vraiment parler des choses, en effet, dont c'est pas toujours facile, en effet, de parler de ses selles, j'ai trop la diarrhée, je suis toujours constipée, comment on fait. Là, elle explique tellement bien scientifiquement que, et après, elle propose des astuces qu'en fait, on les met en pratique très simplement parce que d'abord, enfin facilement, parce que d'abord elles sont simples à appliquer, ces astuces, mais aussi parce qu'on comprend pourquoi il faut faire ça.
Vous-même justement, Dorothée Vatinel, en préparant cette exposition, en rencontrant, en travaillant avec Julia Enders...
Vous allez me demander si je mets un tabouret dans mes toilettes.
Non, oui, je vois si... Bon, déjà, alors ça y est, hein, la réponse est faite. Donc ça a changé votre vie, parce qu'en fait c'est important pour nous, c'est quand même beaucoup de moments dans notre journée, dans notre vie, ça peut nous rendre... Enfin, quand on a mal au ventre, c'est pas drôle du tout. Donc ça a changé votre manière d'être
Moi, ça a d'abord changé le regard que je portais sur mon identité biologique. Je pensais être humaine, je suis humaine et bactérienne.
Mais
donc
oui.
Déjà, voilà.
Ça trouble un peu.
Mais surtout, le fait de comprendre que je suis un écosystème, j'ai envie de prendre soin de cet écosystème. On voit en plus l'importance de ces bactéries dans notre corps. Muriel vient de très bien nous l'expliquer. Donc, bien évidemment, je vais prendre soin de cet écosystème. Je vais faire en sorte que mes bactéries s'y sentent bien dans mon corps. Et j'ai la main dessus. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a la main. C'est-à-dire que c'est ce qu'on explique dans l'exposition. Et là encore, on reprend dans le livre, même si on apporte d'autres information dans l'exposition, notamment grâce à tout ce que l'INRA nous a donné comme...
L'Institut National de Recherche Agronomique.
Voilà, tous ces chercheurs qui ont travaillé de concert avec nous et qui nous ont apporté beaucoup d'autres connaissances. Finalement, on a la main dans notre...
Alors par exemple, comment on a la main dans notre
comportement? Par exemple, dans l'hygiène de vie, par exemple. Donc c'est, bien sûr, il faut être propre, mais il faut faire la guerre à l'hygiénisme. Il ne faut pas tout passer en permanence par l'eau de Javel, par exemple. C'est évidemment dans l'alimentation. Donc, finalement, on a ces bactéries en nous. Donc, on a deux façons d'en prendre soin. Soit on en prend soin en les nourrissant, c'est-à-dire en leur donnant ce qu'elles aiment manger.
Notamment des aliments fermentés, c'est ça ?
Non, alors ça, c'est donc les fibres alimentaires. C'est ce qu'a expliqué Muriel, c'est-à-dire donner des choses qui ne sont pas digérées avant d'arriver dans le côlon, c'est-à-dire avant d'arriver là où sont les bactéries principalement. Donc ça, formidable. Donc, je leur donne à manger, mais je peux aussi... ingérer des bactéries vivantes. Et là, c'est soit dans les yaourts, mais elles ne font que passer le temps que vous mangez les yaourts, ou dans tous les plats fermentés, où là, il y a des bactéries vivantes. Et puis en plus, c'est pas compliqué, parce qu'on peut le faire avec des choses délicieuses. Par exemple, les fibres alimentaires, vous en avez dans les framboises, dans les artichauts. On n'est pas obligé d'aller chercher des choses, même auprès des enfants, on n'est pas obligé d'aller chercher des choses pas faciles à faire manger. Qui n'aime pas les framboises, franchement? Moi, par exemple, ma fille, depuis que je lui dis qu'il y a du fibre alimentaire dans les framboises, on y va.
C'est,
formidable. Voilà. Et donc, on a vraiment une prise. On a aussi, évidemment, dans le choix des aliments que l'on achète pour faire la cuisine. Et puis, c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire, par exemple, les antibiotiques, éviter d'en prendre, enfin n'en prendre que si on n'a pas le choix. Donc par exemple un rhume en hiver pour les antibiotiques, c'est pas très intéressant parce que souvent c'est quand même un virus qui provoque les rhumes. Et s'il faut prendre des antibiotiques, demandez des antibiotiques à spectre serré qui ne vont tuer que la bactérie responsable de votre maladie et pas spectre large, de façon à ne pas tuer les bactéries qui n'ont rien demandé. Voilà. Pour justement respecter l'effet barrière dont parlait Muriel tout à l'heure. Donc en fait, on a la main. C'est ça qui est formidable. C'est vraiment, on a la main sur notre santé, notre microbiote.
Muriel Thomas, alors on a la main et vous devez l'avoir encore plus que nous sur notre santé, notre microbiote. Est-ce que pour vous, en tant que chercheuse, tout ça a aussi changé votre rapport? Alors Dorothée le disait bien, à la fois philosophie existentielle, hein, nous sommes humains et bactériens, et aussi dans votre vie de tous les jours, à votre alimentation, à la manière dont vous vivez, alors vous, consciemment et en le sachant, avec vos bactéries.
Ce qui a changé, c'est de me rappeler souvent qu'en effet, je suis plus des bactéries que de mes propres cellules. Donc parfois, c'est déroutant, en fait, parce que c'est tellement rassurant de se dire qu'on est humain avec un rationnel humain. Voilà, donc ça a changé. Je me le dis plus souvent qu'avant.
Oui, vrai. Parce que, alors là, je vous interromps, parce qu'effectivement, certains chercheurs travaillent aussi sur le rôle de ce microbiote dans la dépression, dans les troubles, dans des troubles nerveux, psychiques. Donc ces bactéries, elles ont un rôle beaucoup plus étendu qu'on l'imagine.
Oui, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir un rôle que localement au niveau de l'intestin. Elles vont discuter avec les autres tissus ou les autres organes, tout simplement en envoyant des signaux qui passent par le sang ou par le système lymphatique, par exemple. Donc, en effet, le rôle du microbiote intestinal est bien plus large et bien moins local qu'on ne pourrait imaginer. Là où ça a changé les choses aussi, qu'on comprend aussi maintenant pourquoi certaines personnes vont être répondeurs à certains médicaments et d'autres résistants.
En raison de leur composition des bactéries, leur microbiote.
Parce que certaines personnes vont porter un microbiote qui... des bactéries notamment qui peuvent dégrader le médicament, et d'autres personnes vont porter des bactéries qui ne pourront pas dégrader ce médicament. Et ça, c'est nouveau, parce qu'on sait tous qu'on n'est pas sensible de la même façon à des médicaments ou à des molécules de notre environnement. On le sait tous,
ce sont nos bactéries qui en sont la raison de la cause.
Voilà. En fait, on met un petit peu plus de rationnel dans ça, en se disant... peut-être que c'est parce que l'individu A a un microbiote un petit peu différent de l'individu B que l'individu A va mieux répondre à un traitement ou à un aliment. Hein. Il y en a, de manger des pommes, ça leur fait mal au ventre. Eh bien oui, on peut éventuellement comprendre qu'ils ont une bactérie qui adore la peau de la pomme et qui va faire plus de gaz que dans l'individu B. Voilà. Et ça, je trouve que ça aide à positionner notre susceptibilité individuelle et du coup à l'exprimer plus facilement en disant « Ah, ça, je digère moins bien. »
Ce qui fait notre individualité humaine, ce sont aussi nos bactéries. C'est passionnant, voilà. On pourrait refaire une émission philosophique là-dessus. Merci infiniment à toutes les deux, Muriel Thomas et Dorothée Vatinelle, d'être venues en direct nous faire partager le charme discret de l'intestin. Alors, il y a la nouvelle édition augmentée du livre de Julia et Gilles Anders qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Et puis donc, cette exposition sur le microbiote à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette, à Paris, jusqu'au 4 août. Elle sera ensuite, je crois, itinérante du côté de Lisbonne, d'Helsinki, et d'ailleurs, on vous en reparlera certainement. Merci.
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 Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, autour de la question de la colère. Tiens donc, pourquoi tant de colère aujourd'hui? Réflexion philosophique sur une émotion contemporaine. Avec Hugo Violas à la réalisation et Tania Tsikounas en coulisses, merci de votre fidélité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, le prochain journal, c'est dans une minute sur la Radio du Monde.